Le mot libéralisme n'a pas aux États-Unis le sens qu'il a en Europe. Le mot ne désigne ni les défenseurs des institutions représentatives ou des libertés personnelles, ni les partisans des mécanismes du marché. Les libéraux américains constituent l'équivalent de la gauche française. Ils souhaitent des réformes économiques et sociales dans un sens favorable aux masses. C'est Raymond Aron qui écrit ça en 1957, c'est vous qui le citez, Alain Laurent, dans votre livre qui relate donc l'histoire d'un détournement, votre livre intitulé Le libéralisme américain est paru aux belles lettres. En somme, le détournement dont vous parlez, c'est que sous le couvert d'un même mot, sous le prétexte d'un seul mot, on a inclus des réalités tout à fait différentes, et pourtant vous-même disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de liberté économique sans liberté politique.
Oui, parfaitement, mais les libéraux américains ne sont pas vraiment partisans de la liberté économique, ou plutôt, ils donnent à l'intervention de l'État une importance bien plus grande, et par ailleurs, ce sont eux qui ont inventé ce qu'on appelle le welfare state, qui repose donc sur une redistribution extrêmement importante du revenu. Alors, on ne peut pas redistribuer des revenus sans, pour habiller Pierre, sans les prendre à Paul, quelque chose que les libéraux européens, qui sont essentiellement des Français et des Anglais, mais pas uniquement, il y avait pas mal d'Allemands aussi, puis d'Italiens, donc toutes tendances confondues, les libéraux classiques ou la tradition européenne d'origine, encore une fois, pensent que liberté économique et liberté politique sont indissociables. Or, la liberté économique est tout de même quelque chose qui est réduit au nom du social par les libéraux américains. Alors, moi, ça m'intriguait en effet qu'on parle de libéraux américains avec une connotation qui n'a rien à voir avec ce que, en Europe actuellement, que ce soit en France, en Italie ou en Espagne, je prends nos voisins, en Allemagne aussi, la situation est un petit peu différente en Grande-Bretagne, parce que c'est de Grande-Bretagne que le changement est venu, en particulier à partir de John Stuart Mill. Et au nom d'ailleurs de critiques que souvent d'autres libéraux, des libéraux classiques, ont émis à l'égard du laissez-faireisme ou du capitalisme de laissez-faire. Mais et à ce moment-là, il faut rappeler qu'en Grande-Bretagne, il n'y avait pas du tout de tradition socialiste. Il n'y avait pas de socialiste. Par conséquent, il y a des gens, disons, de tendance sociale et humaniste qui se sont insurgés, qui ont critiqué les imperfections du capitalisme dont parlait Revel, en particulier l'inégalité de l'accès à la propriété, le fait d'être exclu de l'éducation, etc. Et cela, on dit, mais la liberté telle qu'on la vit dans le capitalisme n'est pas une liberté réelle. Nous voulons qu'il y ait une liberté réelle et plus générale. Et puisque nous parlons de liberté, nous allons appeler ça libéralisme. Et à ce moment-là, il y a donc quelque chose qui a culminé au début du XXe siècle, avec en particulier Hobhouse, qui est l'un des premiers à avoir écrit un ouvrage qui portait le titre de libéralisme, qui ont défendu cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont très vite alliés et ont été absorbés par les travaillistes. Donc, ces libéraux britanniques ont bénéficié du fait qu'il n'y avait que un tout début du syndicalisme et pas de parti de gauche en Grande-Bretagne, et ils occupaient la place qui était vacante dans leur critique des excès du capitalisme. Et puis ça s'est transmis aux États-Unis, en particulier avec John Dewey sur le plan purement philosophique, et puis le New Deal de Roosevelt. Mais Aron a été l'un des premiers à s'aviser de la chose, mais il n'est pas le seul. Puisque j'ai retravaillé les textes de Wilhelm Rocke, qui est un grand libéral social, entre guillemets, lui-même fustige ce détournement du terme libéralisme aux États-Unis. Et le premier qui l'a signalé, c'est Schumpeter. Donc tout de même, avec Rocke, Aron, Schumpeter, qui ne passent pas pour des ultralibéraux fous, on a un juste diagnostic sur ce détournement de son. Moi, ce que j'essaie de faire dans mon livre, c'est comprendre comment dans le détail ça s'est passé et qu'est-ce qui est recouvert par cette notion de... Et comme l'a fait Aron, puis de plus en plus d'auteurs d'ailleurs maintenant, quand je parle du libéralisme aux États-Unis, je le mets en italique et je parle de... Et ça se lit liberal au liberalism, et ça n'a rien à voir en gros, et il faut pas prendre le prétexte du libéralisme politique. Quand Rawls écrit un livre qui s'appelle « Political Liberalism », il emploie évidemment libéralisme au sens américain du terme, ce que tous les journalistes maintenant signalent dans leurs articles. On dit, par exemple, Kennedy était un libéral, entre parenthèses, tous vos confrères de la presse mettent bien au sens américain du terme qui veut dire de gauche.
Rappelons, hein, vous avez cité John Stuart Mill, rappelons son essai de la liberté. paru en 1859, oui. Un manifeste du libéralisme. Stuart Mill indique notamment que la nature et les limites, en fait le but du libéralisme, dit-il, est d'indiquer la nature et les limites du pouvoir que la société peut légitimement exercer sur l'individu, ce contrôle extérieur n'étant justifié que pour les actions de chacun qui touchent à l'intérêt d'autrui. Est-ce que ça veut dire, et je me tourne vers vous deux en fait pour cette question-là, c'est est-ce que ça veut dire que on peut penser avec le libéralisme la possibilité, l'émergence finalement de l'espace souvent laissé vacant entre le gouvernement et ce qu'il gouverne, en somme l'espace de l'association, le lieu de l'entraide, le lieu de ce que Léon Bourgeois par exemple pouvait appeler le désigner sous le terme de solidarisme, en somme l'idée que les individus veillent les uns sur les autres. Il y a une phrase de Kropotkine qui est magnifique. On dit souvent que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Kropotkine dit la liberté des uns commence là où commence celle des autres. Est-ce qu'une telle phrase, peut-être la phrase d'un libéral, Valérie Charolles, selon vous?
Ah oui, ça, je pense. Mais surtout, ce que je dirais par rapport au débat qu'on vient d'avoir, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir une discussion sur l'économie de marché telle qu'on la pratique, telle qu'elle a été théorisée, qui, dépassant les problèmes de terminologie que chacun essaye de ramener à lui-même, permettent de faire émerger de réelles alternatives. Et je pense que le sujet que les économistes ont toujours voulu traiter, au fond, c'est celui de la valeur. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur ? Et je crois que s'il devait y avoir une solidarité politique à avoir en économie, c'est celle de savoir et de discuter au plan politique ce qui a de la valeur dans le processus économique. Et on voit bien que ça ne va pas de soi. Parce que, alors là, les choses sont assez clairement identifiées selon que l'on met la valeur ici ou là dans le processus économique. À son début, quand on produit, ou à sa fin, quand on en tire les bénéfices capitalistiques. Je pense que là, il peut y avoir vraiment discussion sur la mise en place de nouvelles solidarités qui donnerait corps un peu à cette âme solidaire que Adam Smith a pu voir, lui, dans la sympathie enracinée dans un terreau social de son époque, qui était différent.
Mais l'alternative dont vous parlez, est-ce qu'on peut véritablement parler d'alternative, ou est-ce qu'on se situe malgré tout à l'intérieur d'un régime qui, en somme, ménage la possibilité de l'égoïsme? Bien sûr, sympathie, bien pourquoi sûr. Pas, mais y a-t-il d'autres alternatives que de spéculer sur la sympathie que les humains peuvent éprouver les uns pour les autres? Est-ce qu'en somme, quand vous parlez d'alternative, le mot n'est pas excessif, puisque finalement la seule alternative serait de, comme on le dit, de changer de système? Est-ce que, dans la mesure où on ne change pas de système, mais où l'on essaie de mettre en place les dispositifs et les structures qui sont propices à l'émergence de la sympathie entre les individus et des égards qu'ils se doivent, est-ce qu'on peut véritablement ici parler d'une alternative, qu'elle soit politique ou qu'elle soit économique? Alain Laurent, Valérie Charolles. Valérie Charolles d'abord, juste parce que
Moi je pense que l'alternative, elle existe au sens où faire résider la valeur économique ailleurs que dans la valorisation du capital, mais la mettre et dans la valorisation du travail, ce serait une alternative qui conserve l'économie de marché. On est dans un marché libre. Simplement, le salariat n'est pas que charge dans l'entreprise, il est aussi valeur, c'est la valeur du capital humain. Et une entreprise, quand elle embauche, elle ne fait pas que s'appauvrir, elle s'enrichit aussi dans son patrimoine. Si on mettait ça dans nos règles économiques, il se passerait concrètement des choses différentes tous les jours.
Alain Laurent, qu'est-ce que vous trouvez à redire à cette hypothèse ?
Je ne pense pas qu'il y ait il y a des alternatives, mais elles sont ruineuses et catastrophiques. On peut toujours s'amuser, en effet, à replonger dans l'économie dirigée, à accroître la fiscalité, à détruire la propriété des entrepreneurs. On sait ce que ça a déjà donné. Évidemment, on peut pas, comment dire, raisonnablement imaginer que ça ne puisse pas se reproduire. Donc, il n'y a pas d'alternative. Mais il y a sans doute...
Est-ce que, par exemple, une initiative comme celle du président Obama aujourd'hui, la construction, en fait, d'une sécurité sociale, d'une authentique sécurité sociale en Amérique, vous semble une démarche vouée à l'échec ou liberticide?
Je ne peux rien. Ce serait liberticide si jamais ça se faisait au détriment de ceux qui, actuellement, ont déjà eu une assurance. C'est d'ailleurs ça, là-bas, le grand débat. Obama essayait de rassurer, justement, ces gens-là. Mais je veux revenir à notre débat antérieur. Moi, il n'y a pas longtemps, dans une brocante, j'ai acheté un livre pour, ça devait être 5 ou 6 euros. C'était quelque chose que je cherchais depuis très longtemps. J'aurais été prêt à le payer 30 ou 40 ou 50 euros.
ce que d'ailleurs le vendeur ignorait. Qu'est-ce qui fait la valeur de quelque chose ? C'est mon désir subjectif, l'envie que j'en ai, le besoin que j'en ai. Et par conséquent, dans
je pourrais vous rétorquer que votre désir est aussi éventuellement, je ne parle pas du vôtre en particulier, mais c'est aussi une fabrication d'une publicité qui attire votre attention sur un objet plutôt que sur tel autre. Le désir se crée, le désir se fabrique. Toute l'œuvre de René Girard repose justement sur la création d'un désir.
C'est un livre de Dupont de Nemours qui avait tout de même deux siècles et j'ai rarement vu de publicité attirer l'attention dessus.
Je vous l'accorde.
C'est la diversité des désirs individuels. Et par conséquent, ce qui fait la valeur d'un bien, d'une marchandise, c'est justement la relation, seule la relation qu'elle a avec le consommateur ou le demandeur. Mais quelle est la valeur d'un bien qui va être fabriqué si personne n'en a envie ? Ben, zéro, même s'il y a eu des milliers d'heures de travail. Donc il ne faut surtout pas confondre la valeur travail, dont on parle beaucoup actuellement, y compris d'ailleurs au sommet de l'État, et le travail comme source de valeur. Que le travail soit une valeur sociale ou morale, c'est évident, tous les libéraux l'ont dit, et ils ont d'ailleurs souligné quelque chose qui a été perdu de vue par un certain capitalisme actuellement. C'est le caractère fondamental de l'épargne. Qu'est-ce que c'est que le crédit s'il n'y a pas d'épargne derrière ? C'est pour ça qu'on est abouti à la folie ultra-financière actuelle.
Valérie Charolles, le mot de la fin, on arrive au terme de cette émission sur la valeur travail.
Je pense que ce qu'il faudrait éviter, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui au plan de la pensée, que l'idée d'économie de marché soit confisquée au bénéfice d'une lecture de l'économie de marché comme économie capitaliste, très orientée du point de vue idéologique. Je pense que l'économie de marché, c'est le défi qu'on a aujourd'hui, peut s'inventer de façon différenciée, avec des alternatives autour notamment de cette question de la valeur.